Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale que Radio Présence vous propose chaque semaine. Et comme lors de notre numéro précédent, l'art lyrique, le chant sont à l'honneur au sommaire de cette émission. Les représentations de Tristan et Isolde viennent de se terminer. La quatrième et dernière doit avoir lieu ce mardi à l'Opéra National du Capitole. Au même endroit, la grande soprano suédoise Lina Stemme a donné dimanche un récital très attendu, où l'on a pu entendre notamment les Wesendonck-Lieder, autre chef-d'œuvre wagnérien. Pour revenir sur ces événements et sur le concert de l'Orchestre National du Capitole vendredi à la Halle au Grain, dirigé par Christian Zacharias, je retrouve mes amis Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Selon la formule consacrée, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est parti pour notre traditionnelle rubrique dédiée à l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Nous filons d'emblée à l'Opéra National du Capitole pour revenir sur la toute récente production de Tristan et Isolde. Nous l'avions présentée il y a 2 semaines en indiquant qu'elle reprenait la mise en scène de Nicolas Joël créée au même endroit en 2007 et en insistant sur les nombreuses prises de rôle auxquelles elle donnait lieu. Il y a donc eu 4 représentations, encore qu'on ne sait pas, au moment où nous vous parlons, on ne sait pas si la 4e va bien avoir lieu. Robert, vous avez assisté aux 2 premières, Serge, vous étiez à la 3e. On va commencer avec vous, Robert, votre avis et vos impressions sur ce Tristan et Isolde version Capitole 2023.
Bon, mais d'abord, saluer le courage quand même de Christophe Gristy, parce que afficher Tristan et Isolde, c'est d'abord être sûr d'avoir en main 2 interprètes d'exception. Or, les interprètes d'exception de Tristan et d'Isolde se comptent sur les doigts d'une main, par génération. Et lorsqu'ils existent, parce qu'il y a une génération un peu fragile de ce côté-là, et lorsqu'ils existent, ben, ils sont monopolisés par Milan, Vienne, New York, Londres, à une époque Paris. Bon, d'après ce que j'ai compris, c'est plus trop le cas en ce moment. Mais bon, pour les avoir à Toulouse, c'est difficile. Eh bien, Christophe Gristy, vous savez, a créé une sorte de famille de chanteurs à Toulouse. Et dans cette famille de chanteurs, il y a bien évidemment tous les interprètes du dernier Parsifal. Et en fait, lorsqu'ils se sont quittés pour Parsifal il y a 1 an et demi en gros, ils étaient tellement contents d'avoir tout chanté ensemble et ils ont dit à Christophe Gristy, bah, vous ne pouvez pas nous préparer quelque chose, et il a bien réfléchi, il n'a pas répondu de suite quand même, et puis quelques temps après il leur a dit, voilà, si vous en sentez le courage, moi je vous propose de venir chanter Tristan. Alors évidemment, stupeur, parce que personne ne l'avait chanté. Et puis finalement, Christophe Gristy nous a proposé 8 personnages, non pas en quête d'un auteur, voilà, mais 8 personnages qui abordaient tous leur rôle, voilà, sur la scène du Théâtre du Capitole.
C'est un pari tout de même.
Ah, c'est un pari extraordinaire.
Quand vous parlez de courage, vous avez raison.
Voilà, alors... Après, pourquoi ont-ils accepté un pari qui est un challenge en même temps? Parce que les rôles sont redoutables. Hein. Autant Sophie Koch que Nikolaï Choukov me l'ont dit. Ils m'ont dit on acceptait en même temps parce que c'était Christophe Gristy qui nous le présentait et il connaît les voix mieux que quiconque. Il savait que nous étions capables de le faire. On a accepté parce que c'était au Théâtre du Capitole, on connaît la salle, on connaît le public, on connaît l'acoustique. Nous savions tous que c'était pas dangereux pour nous. Et puis surtout, nous avons accepté parce que c'était Frank Berman qui était au pupitre. C'est un grand chef, mais un immense chef de répertoire allemand.
Et Wagnerien en particulier.
Et Wagnerien en particulier, Straussien également. Mais qui, paradoxalement, n'est pas dans les grandes salles. Alors, on ne comprend pas. Est-ce que c'est une question d'argent? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas répondre. Mais franchement, ce qu'il donne à entendre... n'a pas à rougir par rapport à ce que nous donnent certaines stars de la baguette beaucoup plus connues que lui. Voilà, ça je tenais à lui rendre hommage. Donc, cette reprise se fait dans la production créée In Loco en 2007, qui a été reprise ensuite en 2015. Donc, c'est la troisième fois que le public peut la voir. Elle est, pour la mise en scène, elle est signée Nicolas Joël. Pour les décors et costumes, Andreas Reinhardt. Et pour les lumières, d'un habitué du Capitole, Vinicio Kelly, qui était toujours avec... Il faisait toujours partie de ce quatuor incroyable qui nous a valu des productions extraordinaires avec Franca Squarciapino, avec Ezio Frigerio et avec évidemment Nicolas Joël à mise en scène. Donc c'est une production que l'on connaît, pas de surprise, mais très, très heureuse surprise, très grand plaisir de la retrouver. Alors vous savez, c'est une scène qui est divisée en trois, avec trois parties mouvantes. Bon, on peut imaginer que c'est un bateau, bon, voilà, etc. Mais c'est surtout de très beaux éclairages et puis une mise en scène qui met en valeur une histoire dans laquelle il n'y a pas d'action. En fait, donc, ce que l'on voit, ce sont des personnages, des entités, des symboles. Des symboles d'un amour qui est devenu mythique, comme Roméo et Juliette, comme Pélas et Mélisande. Et c'est Tristan et Isolde. Voilà, c'est l'un des grands romans d'amour de notre civilisation. Voilà, alors, on peut dire que c'est ce que l'on voit à une esthétique qui rappelle un peu, n'est-ce pas Serge, le nouveau Bayreuth.
Exactement, beaucoup d'abstraction.
Beaucoup d'abstraction,
oui, oui, et
de la lumière.
Oui,
de
oui, la lumière. La lumière joue un rôle important.
Joue un rôle important, voilà. C'est elle qui enveloppe chaque personnage. Voilà, c'est très beau. Alors, il ne faut pas oublier que quand même, la mise en scène a été réglée par la fille d'Anna Delbé, qui s'appelle Émilie Delbé, qui est danseuse également. Alors non, là, il n'y a pas, comme c'est l'habitude maintenant, il n'y a pas, les personnages ne sont pas doublés par des danseurs. Non, pas du tout. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'elle a un peu revisité malgré tout la mise en scène Nicolas Joël, en particulier au deuxième acte, où vraiment nous avons un duo entre Tristan et Isolde qui est littéralement chorégraphié. Ils s'enroulent les uns à les autres, ils s'enlacent, c'est une espèce de mélisme humain qui est absolument extraordinaire. Ça, je pense que c'est une nouveauté par rapport à ce que nous avions vu auparavant. Bon, alors venons-en quand même, bon, évidemment, aux chanteurs. Et pourquoi ne pas démarrer par des seconds rôles? Parce qu'ils étaient tous en prise de rôle, également.
Vous l'avez rappelé,
effectivement. Ah oui, tout à fait. Et en particulier, moi, j'ai été assez impressionné par un baryton strasbourgeois que je ne connais pas. Alors, lui, pour le coup... Il ne fait pas encore partie de la famille, donc je ne sais pas trop s'il va l'intégrer. J'imagine qu'avec son interprétation de Mélotte, l'ami de Tristan qui va finir par le trahir, ben j'imagine qu'il va intégrer cette famille, du moins nous le souhaitons tous. Il s'appelle Damien Gastel, et vraiment, il a un organe qui est parfaitement conduit, sonore, un phrasé véhément, enfin, il est vraiment très très bien. C'est une voix extrêmement intéressante. À la suite, il y avait quelqu'un que l'on connaît mieux, puisque premièrement, il a été un deuxième prix inexplicable tellement il méritait le premier prix du concours de chant de la ville de Toulouse en 2019. Et depuis, évidemment, inutile vous dire que Christophe Gristy l'avait repéré
et puis
immédiatement et le suit. Valentin Thiel, qui a été notre dernier Tamino. Et là, nous l'entendons dans un double titre. Alors, premièrement, nous l'entendons dans le Berger. Et ensuite dans Le Jeune Matelot. Alors, ce que j'ai noté, c'est que la voix avait fortement grossi. Alors, grossi, oui. Pas dans un sens péjoratif. Hein. Grossi, pris de l'ampleur.
L'ampleur, vous voulez dire.
On va dire, voilà, c'est plus élégant peut-être.
Ou de l'envergure.
Et donc, moi, j'ai l'impression que ce ténor va vite abandonner des seconds emplois pour aborder des choses. Moi, de ce que j'ai entendu, d'ores et déjà, je le verrais bien dans Mantoue ou... Pourquoi pas dans Alfredo de La Traviata. Moi, j'ai l'impression qu'il a acquis quand même une assurance. Voilà, c'est très, très intéressant. Et puis, dans un personnage tout à fait secondaire, c'est un baryton, qui s'appelle Mathieu Toulouse, et qui lui fait juste une apparition, mais je peux vous dire que c'est
une apparition le
rôle
remarquée.
Du pilote, mais pour dire que les trois notes qu'il a à faire, on les entend, et puis elles sont de très très grande qualité. Alors, nous l'avions déjà entendu, mais c'était un peu plus discret, dans le premier ouvrier des dernières reprises de Wozzeck en 2001. Voilà, mais peut-être tout le monde ça n'est pas forcément aperçu. Alors ensuite, nous continuons à citer cette distribution, et puis... Moi, il y a quelque chose qui m'a stupéfait, c'est le roi Marc de Mathias Goerne. Alors, c'est vraiment un bariton basse que nous connaissons bien. Toi, Serge, tu l'as entendu et dernièrement, oui. dernièrement.
Dans Le Voyage d'hiver de Schubert, puisque c'est l'œuvre qu'il a donnée en récital. Et vraiment, la voix s'est assombrie récemment, mais reste d'une beauté, d'une rondeur impressionnante. Hein.
Absolument. Donc, il est la preuve par A plus B qu'on n'a pas besoin d'une basse profonde pour chanter ce rôle. Il faut dire qu'il a de telles harmoniques dans sa voix, puis il sait tellement conduire sa voix, le phrasé, la nuance, la musicalité, les dynamiques. C'est un marque de la grande tradition wagnérienne, en fait.
Un rôle qui l'a marqué.
Oui, voilà. Absolument. Et puis, le bariton français Pierre-Yves Pruvot.
Qu'on commence à connaître.
Que l'on commence à connaître, qui lui a carrément intégré la famille, bien sûr. Et puisque, personnellement, je l'avais découvert en 21 dans Joconde, où chantait le rôle terrifiant de Barnaba. Il nous était revenu avec un rôle qui est non moins terrifiant, c'était celui de Klingsor. De rôle qu'il a marqué aussi de son empreinte, de sa voix. C'est un artiste sur scène également, on y croit beaucoup. Et là, il joue énormément sur sa voix pour caractériser le personnage. Je veux dire par là qu'au premier acte, donc, alors, vous avez deviné, il fait Courvenal. Au premier acte, donc, il est très sec par rapport à ce qu'il doit dire à Brangen et les messages qu'il doit porter de Tristan. Et donc, il hache littéralement son chant pour être extrêmement désagréable par rapport à Brangen et à Isolde. Tant et si bien que ça a pu en désarçonner quelques-uns. Et puis, nous le retrouvons au troisième acte lorsqu'il est en train de veiller littéralement un mort qui est Tristan, qui est en train d'agoniser. Et là, nous avons l'ami de Tristan là, qui est là, qui se lamente, qui l'encourage, qui le soutient, etc. Et là, nous découvrons un autre chanteur avec une voix extrêmement beaucoup plus posée, avec un phrasé beaucoup plus soutenu, des nuances. Et c'est un merveilleux Courvenal, vraiment à faire pleurer des pierres. Voilà une très, très grande prise de rôle également, tout comme une autre chanteuse française, le mezzo Annaïg Morel, que nous retrouvons, elle a déjà chanté chez nous, mais nous la retrouvons ici dans le rôle de Brangen, qui est tout sauf un rôle secondaire. C'est un rôle très difficile qui réclame un contrôle du souffle énorme. Et voilà, ces appels du deuxième acte étaient à faire aussi pleurer des pierres. Quoi. C'est très beau, la voix est ronde, le timbre est velouté. C'est une magnifique Brangen.
C'est une valeur sûre, Annaïg Morel. C'est pas la première fois qu'on l'entend et à chaque fois, elle a droit à toutes les louanges, que ce soit du public ou de critiques comme vous.
Voilà, c'est la cinquième fois qu'à chaque fois.
Oui, maintenant c'est inhabitué. Hein.
Voilà.
Pour ça, je dis, c'est une valeur sûre.
Nous arrivons aux deux rôles. J'appelle les amas magnifiques, oui. Bien sûr, là. Également, non, évidemment, mais encore faut-il le redire, c'est deux prises de rôle qui sont majeures dans toute carrière d'un artiste, bien évidemment. Et elles sont majeures dans le sens qu'elles sont dangereuses. Et donc, bon, tous les deux ont quand même bien réfléchi. Bon, franchement, Nicolae Chukov, il n'en avait même jamais rêvé. De chanter, c'est pas qu'il n'en avait pas envie, mais il n'en avait pas rêvé. Il s'imaginait pas qu'un jour, quelqu'un allait
lui proposer
Tristan.
Le rôle de Tristan.
Voilà. Et en fait, finalement, il a accepté et il a bien fait. Parce que, alors d'abord, c'est un tragédien lyrique, et Nicolae Chukov, et il ne fait pas que chanter, loin s'en faut. Mais en même temps, il a cette voix d'airain, parce que c'est vraiment un Elden Ténor qu'il faut, en particulier au troisième acte, et même la fin du duo du deuxième acte réclame des voix d'acier, littéralement. Et donc, malgré que la première et la deuxième représentation, il n'était pas au fait de ses moyens, parce qu'il relevait d'une bronchite, je peux vous dire que, ah ben Serge, tu vas compléter mes dires.
C'est effrayant, avoir une bronchite à la veille de Tristan, voilà. C'est terrible pour lui.
Et ça. Il assurait, alors bon, le sentait effectivement, même au salut de la deuxième représentation, au salut final, il a fait signe au public en montrant sa voix et en s'excusant un peu, en s'inclinant profondément, en disant, excusez-moi, je pense que je peux faire mieux, mais là, ce soir, eh bien, je peux vous dire que pour en avoir entendu des Tristan, parfois très célèbres, personne n'est arrivé au bout du troisième acte comme lui. Il a transpercé l'orchestre et c'était magnifique, mais il aurait fait pleurer des pierres encore une fois. Encore une fois, c'est un Tristan très émouvant, très, très sensible qu'on a eu. C'était magnifique. Et puis à côté de lui, il avait quelqu'un donc, avec qui il a beaucoup l'habitude de chanter. Ça a participé d'ailleurs à l'acceptation de tous les deux de prendre ces rôles-là. C'est Sophie Coche. Donc il a chanté Parsifal avec lui, elle faisait Kundry. Il a chanté Valkyrie avec elle à Marseille, elle faisait Sieglinde. Ils se connaissaient très bien, ils savaient que parfaitement ni l'un ni l'autre tirerait la couverture à lui pour je ne sais pas quelle raison, comme ça arrive souvent. Sur les scènes d'opéra.
Ça existe aussi chez les instrumentistes, ça. Voilà. Pas seulement chez les chanteurs.
Mais non, il n'y avait qu'à écouter ce duo, n'est-ce pas Serge, ce duo. On n'entendait qu'une voix, en fait. Et puis ils se regardaient, on voyait bien.
La complicité. La
complicité, c'était merveilleux. Alors, Sophie Coche, voilà, elle en rêvait aussi, mais elle pensait hors de portée.
Sans oser le formuler,
oui, exactement. Voilà, et qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle nous fait une Isolde extrêmement émouvante sur scène également. Hein. Elle aussi a acquis une sécurité dans l'aigu extraordinaire, sans abandonner son grave, loin s'en faut. Le haut médium tonne, dans ses malédictions du premier acte, elle domine l'orchestre, il faut voir comment. La deuxième représentation, très clairement, chez elle, était... Si vous voulez, était beaucoup moins stressée par la première. Donc, elle savait de quoi elle était capable et donc elle nous l'a montré. Elle a été, très clairement, meilleure quand même qu'à la première représentation et ça se comprend. Et d'ailleurs, dès ses premiers mots, à la deuxième représentation, on a vite compris qu'on allait entendre autre chose. Voilà. Bon, c'est une Isolde qui compte. Alors, est-ce qu'elle va le faire souvent ? Moi, je l'ignore ça complètement. Hein. Peut-être qu'il faut qu'elle fasse un peu attention aussi, parce que c'est quand même un rôle qui est très exigeant.
Qui est éprouvant.
Même si elle domine techniquement. Hein, quand même, voilà. Mais bon, c'est vraiment stupéfiant ce qu'elle est arrivée à faire. Une cantatrice que nous avons tous entendue au Capitole, dans Chérubin, dans Octavian, dans des rôles comme ça, et puis tout d'un coup l'entendre dans Isolde, qui est peut-être l'un des rôles les plus terrifiants de tout le répertoire. Et puis évidemment, la participation des chœurs, que Gabriel Bourgoin mène très bien son affaire au Théâtre du Capitole. Et puis évidemment, il y a l'orchestre, un orchestre magnifique, Franck Berman.
Et dirigé par Franck Berman en plus.
Ah oui, je voudrais vraiment dire que ce qui m'a le plus touché de toute la représentation, c'est la participation de l'orchestre. C'est l'acteur principal. De l'œuvre, c'est extraordinaire. Et puis, il faut souligner la participation de Gabriel Zanneboni, qui tient le corps anglais, qui a un rôle primordial dès le début du troisième acte. Et elle a fait ça de manière magnifique. On sait que c'est une grande musicienne, hein. On l'entend souvent au sein de l'orchestre.
En fait, c'est un challenge aussi. C'est
un terrible défi.
Parce qu'elle t'a découvert complètement.
Oui. C'est a cappella. Elle n'a même pas le soutien de l'orchestre. Non. Donc c'était très, très beau. Et d'ailleurs, Franck Berman a eu un vrai triomphe à la fin, d'autant plus qu'il a eu l'initiative, et ça, c'est magnifique, de faire monter tous les musiciens de l'orchestre sur la scène pour venir saluer parmi les chanteurs. Et ça a été très apprécié par le public.
Et les chanteurs aussi qui les ont applaudis.
Les chanteurs aussi, oui.
Les chanteurs ont applaudi l'orchestre sur scène.
Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un grand Tristan sans un grand orchestre.
C'est clair. Bon, très clairement, le drame... Le drame en tant que tel se jouait dans la fosse.
Oui.
Et d'ailleurs, Franck Berman, pour revenir à Gabriel Zanneboni, Franck Berman l'a prise par la main et l'a fait saluer solo. Oui. Alors évidemment, triomphe à la clé.
Mérité, largement.
Voilà. Non, mais c'est vraiment une reprise enthousiasmante parce que pleine, d'abord, l'œuvre qui est sublime, et puis une œuvre de découverte. Une œuvre de challenge, encore une fois, très clairement, qu'il faut mettre, malgré tout, il n'est pas venu saluer, mais au crédit de Christophe Grissi, parce qu'il il fallait avoir l'estomac pour faire ça.
Ouais, et il a réuni toutes les pièces du puzzle. Nous allons écouter un petit extrait instrumental de Tristan Isolde, parce que je n'ai pas les voix, on n'a pas d'enregistrement, en tout cas pour l'instant, des premiers rôles en tout cas, j'espère que ça viendra. Donc voici un extrait instrumental de Tristan Isolde, version Capitole 2023, interprété par l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Frank Berman. Petits extraits de Tristan Isolde interprétés par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Frank Berman pour terminer cette partie consacrée à la récente production de l'opéra de Richard Wagner au Capitole, où nous allons retourner tout à l'heure pour parler du récital de la soprano Nina Stemme donné dimanche. Pour l'instant, direction la Halle aux Grains. L'Orchestre National du Capitole, encore lui, y était en concert vendredi dernier, dirigé par le pianiste et chef allemand Christian Zacharias. Ce sont les Allemands qui dirigent l'orchestre en ce moment. Tout le programme était d'ailleurs germanique et même viennois, pour être précis. On s'est vraiment régalé au cours de cette très belle soirée, Serge.
Ah oui,
on
absolument.
Y était tous les deux.
Alors, c'est un programme, j'allais dire, amusant, puisque basé sur le chiffre 2, puisque les trois œuvres qui étaient au programme...
Ce sont des numéros 2.
En plus, avec, pour débuter... une œuvre de Schönberg qui a fondé la deuxième école de Vienne, alors que les deux autres compositeurs, c'est-à-dire Beethoven et Schubert, faisaient partie de la première école de Vienne. Donc c'est amusant, c'était un programme bien conçu. Et là, on a retrouvé le magnifique pianiste qui est Christian Zacharias, évidemment, mais le grand chef également, hein, qui nous a, non pas étonnés, mais vraiment ravis.
Éblouis.
Ah oui, ébloui dans les deux pièces symphoniques qu'il a dirigées. La première étant donc de Schönberg. Alors, ce Schönberg en question, il a beaucoup évolué dans son style au cours de sa production. Et donc, la symphonie de chambre numéro 2, c'est vraiment la symphonie d'un changement de style. Puisque s'il a composé les premiers esquisses en 1906, il ne l'a complété qu'en 1939, vous voyez un peu l'espace entre les deux. Et donc là, après être passé par la musique atonale et le dodécaphonisme, il est revenu à une certaine tonalité à peu près. Et j'ai trouvé des liens vraiment entre cette œuvre et sa fameuse Nuit transfigurée qui elle date de 1899 quand même. Hein, donc très ancienne par rapport à cette symphonie de chambre. Et donc là, on a retrouvé vraiment une direction extrêmement précise, expressive, forte, avec cet adagio initial qui distille une inquiétude étonnante. Et puis le deuxième mouvement, il y a deux mouvements, le deuxième s'appelle donc Con Fuoco, avec feu, donc plein d'angoisse et dans lequel le rythme domine en quelque sorte. Donc très intéressant cette œuvre, très rarement donnée. Je crois ne l'avoir jamais entendu à Toulouse. Donc,
Oui, on en a parlé la semaine dernière, effectivement, on n'en a pas trouvé trace en tout cas.
Non. Et puis comme deuxième œuvre, alors, au programme, dans la première partie toujours, c'était le concerto pour piano et orchestre numéro 2 de Beethoven, que Beethoven a composé avant le concerto numéro 1 d'ailleurs. Il porte le numéro 2.
Ça, les numéros, c'est toujours un peu particulier.
Il a été publié après, plus tard, et puis il l'a remanié. Et là, évidemment... Christian Zacharias jouait le rôle à la fois de soliste et de chef d'orchestre. Et il a vraiment accomplit ce double rôle de manière impressionnante.
Avec une facilité, dirais même presque une espèce de nonchalance.
Oui, oui, c'était naturel. Tout coulait de source, avec évidemment cette ombre de Mozart qui plane quand même sur l'œuvre. Hein. Alors, c'est un grand habitué de cet exercice, évidemment. Mais là, je trouve qu'il a apporté une espèce de ferveur, une invention dans le choix des phrasés, la manière dont il faisait dialoguer les différents pupitres. Et il s'impliquait énormément avec les musiciens. Hein. Il se levait quelquefois de son clavier pour s'adresser directement à chaque musicien.
Oui, parce qu'il faut, pour ceux qui n'étaient pas là, il était face à l'orchestre
face à l'orchestre.
Dos au public.
Voilà. Alors, par exemple, pour l'Allegro con brio, qu'il a joué et dirigé avec un tempo vif et nerveux, eh bien, on avait quand même des espèces de bouffées de tendresse au piano, des douceurs de certains phrasés.
Il y a une sonorité, des nuances incroyables.
Ah oui, oui, oui. Ça, c'était impressionnant. Et puis un adagio qui là résonné un peu comme une prière, alors que le rondo final a pris un peu des allures de jeu. On avait l'impression que c'était un jeu dans lequel la complicité entre l'orchestre et le piano atteignait son sommet là. Vraiment un beau moment d'une grande luminosité, d'une grande beauté, qui a été tellement applaudi, tellement acclamé, qu'il est revenu quand même pour donner un bis au piano, donc.
Un bis inattendu.
Ah oui, inattendu, mais d'une grande beauté.
Tout le monde n'a pas reconnu, je pense.
Non, alors c'est l'une des 555 sonates.
Il fait très fort pour la reconnaître.
Dominique Scarlatti. Alors, je ne sais pas quel numéro, je ne saurais pas vous dire, mais Scarlatti est un compositeur auquel Christian Zacharias vous une admiration sans limite. Il l'adore, ce compositeur, et ça se sent.
Alors, on va réécouter une première fois donc Christian Zacharias dans une exécution du concerto pour piano numéro 2 de Beethoven. Le voici dans une interprétation du deuxième mouvement Adagio. Le deuxième mouvement d'Adagio du concerto pour piano numéro 2 de Beethoven, interprété par Christian Zacharias. Le grand pianiste et chef allemand a donc dirigé ensuite l'orchestre du Capitole dans la symphonie numéro 2 de Schubert. Très belle, ma foi, et pourtant rarement donnée en concert, ce qui est peut-être dommage, Serge.
Oui, c'est d'autant plus dommage que c'est tout de même l'œuvre d'un jeune compositeur de 17 ans. C'était de même incroyable, donc. Et puis, il faut souligner aussi que c'est la symphonie la plus joyeuse de toutes les symphonies du compositeur. Oui. Vraiment, oui. Là, il n'y a pas de...
Il est encore jeune et plein d'illusions à l'époque.
Exactement, ça doit être ça, oui. Et là, aussi magnifique, hein, ce qu'a fait Christian Zacharias, hein, la dirigeant, avec une joie qui éclate dans l'Allegro Vivace, et puis avec cet enchaînement entre le largo de cet Allegro qui précède l'Allegro Vivace, toujours du premier mouvement, et donc cet enchaînement admirablement réalisé par Christian Zacharias et l'orchestre. Donc. Et puis on a l'impression que dans ce mouvement, il s'adressait individuellement à chaque musicien. Il se tournait vers chaque pupitre, vers chaque musicien.
On parlait de complicité tout à l'heure, il y a une vraie complicité entre les musiciens
complète,
de l'orchestre et Christian Zacharias, parce que ce n'est pas la première fois qu'il est dirigé. Et moi je sais qu'il s'apprécie beaucoup d'être dirigé par cet immense musicien.
Exactement. Avec un andante, deuxième mouvement dans andante, qui est sous forme de thèmes et variations, et comme jouer dans un sourire un peu en quelque sorte. Hein. Et puis le menuetto, alors ça c'est étrange parce que le menuetto c'est le seul mouvement en mode mineur d'une symphonie en majeur.
Qui est en majeur, oui.
Alors que le menuetto, ça devrait être suffisamment léger pour être en majeur.
A priori.
Eh ben non, donc c'est en mineur, mais...
C'est là qu'apparaît peut-être pour la première fois le tempérament inquiet et angoissé de Schubert.
Peut-être, oui. D'autant plus que c'est un menuet qui est tendu, hein, en quelque sorte. Hein,
ah oui.
Et un peu martelé par moment. Donc. Et enfin, le final, presto, vivace. Là, il l'a dirigé et l'orchestre l'a joué comme une fête.
Ah, c'était très enlevé.
C'était la fête. La lumière éclabousse le paysage. Et puis la coda est irrésistible. De joie, vraiment. Et qui a déclenché d'ailleurs un enthousiasme absolument mérité, bien entendu, de tout le public. Ça a été une acclamation vraiment très, très profonde de la part du public.
Et mérité, la salle était très bien remplie d'ailleurs.
Ah oui.
Nous allons sauter sur l'occasion pour écouter un extrait de cette très belle symphonie numéro 2 de Franz Schubert, rarement donnée. Donc, voici le menuetto, on l'évoquait à l'instant, troisième mouvement qui présente la particularité d'être en mode mineur alors que la tonalité générale de l'œuvre est en majeur. Le menuetto, troisième mouvement de la symphonie numéro 2 de Franz Schubert dans une version de l'orchestre de chambre d'Europe, ici dirigé par Claudio Amado, pour conclure ce chapitre dédié au concert que l'Orchestre National du Capitole et Christian Zacharias ont donné vendredi dernier à la Halle au Grain. Retour maintenant à l'Opéra National du Capitole pour revenir sur le récital de Nina Stemme. Il a eu lieu dimanche, c'était une première à Toulouse pour cette immense chanteuse, artiste wagnérienne admirée dans le monde entier. Et Robert Pénavert, comme d'autres passionnés, n'aurait raté ça pour rien au monde. Est-ce que ce récital de la grande soprano suédoise a été aussi inoubliable que vous l'attendiez, Robert ?
Absolument. Alors effectivement, il faut le dire que le Capitole était aux trois quarts plein. C'était un dimanche après-midi, nous sommes encore en vacances. Enfin, dimanche, je veux dire, pardon. Et le théâtre du Capitole était aux trois quarts plein. Puis je peux vous dire, un public extrêmement attentif et chaleureux à la fin. Nous allons y revenir. Voilà. Donc Nina Stem, bon, bien sûr, c'était la première fois. Bah, elle a ses rondes de serviettes à New York, à Londres, à Milan, à Vienne, à Bayreuth et nulle part ailleurs. Et bien sûr. Alors, comment Christophe Gristy a réussi ce miracle de la détourner pour qu'elle vienne passer une soirée à Toulouse. Bon, ça fait partie de voilà.
Mais c'était une chance immense. Oui. Dont beaucoup étaient conscients, ce qui explique que la salle était très bien remplie.
Bien sûr. Donc, elle était accompagnée par un de ses compatriotes, Magnus Svensson. Et donc, en fait, elle a alors, d'abord parlé simplement du répertoire de cette cantatrice qui, depuis 25-30 ans à peu près, enchaîne les Brunhildes, les Electra, les Turandot, les Isolde, les teinturières de la femme sans ombre, et voilà, et Kundry également. Mais c'est une voix, alors voilà ce que je voudrais dire, parce que certains ont été surpris, c'est une voix qui me rappelle, moi personnellement, Kirsten Flagstad, très clairement. C'est-à-dire, c'est ces grandes voix qui ne chantent pas comme beaucoup aujourd'hui, malheureusement, le font, chantent sur le muscle. C'est-à-dire, elles forcent pour chanter. Flagstad, de même que Nina Stem, simplement font passer la colonne d'air. Alors évidemment, elles soutiennent énormément. Elles ont des appuis, je vais être désagréable, mais en béton, littéralement.
Non, mais là, on parle vraiment de technique très pointue,
de technicienne. De technique, mais alors, tout ça ne veut pas dire que ce sont des tubes incapable de faire la moindre nuance, loin s'en faut. Ce que nous a fait entendre Nina Stem était merveilleux, de phrasé, de musicalité, de finesse, de legato même, on peut le dire, c'était merveilleux. Mais vraiment merveilleux. Alors, c'est un peu à surprendre parce que le timbre de voix, par contre, est très sombre. Alors, c'est vrai, on sortait d'une Isolde, Sophie Koch, très claire au point de vue, au timbre de voix, de ce point de vue-là. Et donc, Nina Stem, évidemment, elle avait quasiment, en comparaison, une voix de contralto, bien sûr. Hein. C'est pas du tout le cas, c'est un vrai soprano dramatique. Oui. Une espèce extrêmement rare. Alors, au cœur de ce récital, Nina Stem nous a fait découvrir, enfin, pour ma part du moins, un de ses compatriotes compositeurs, qui s'appelle Sigurd von Koch, et qui est né en 1879, et le malheureux est décédé à peine 40 ans après. Voilà, et en fait, il n'est pas très connu non plus dans son pays, alors qu'en fait, il a pas mal composé. Et Nina Stem est venue avec un cycle de mélodies qui s'appelle la flûte mystérieuse sur des poèmes chinois anciens, traduits en allemand. Bien sûr, ça a été chanté en allemand. Alors, ces textes font la part belle à une nature salvatrice, souveraine, refuge de sentiments les plus intimes, vous savez, comme très très souvent dans le répertoire de mélodies. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, la fluidité de son écriture est extrêmement nostalgique, et puis c'est fait écho à un certain post-romantisme. C'est une musique qui s'écoute très facilement, qui est très agréable. C'était pour moi une très très belle découverte. De suite après, il y avait le seul solo du pianiste, et nous en avions parlé la semaine dernière. C'était c'était une très agréable paraphrase signée Franz Liszt sur l'air du premier acte des maîtres chanteurs Nuremberg de Wagner, l'air de Walther. Alors là, évidemment, c'est une paraphrase. Voilà, c'est une paraphrase qui convoque virtuosité, variations savantes sur des leitmotifs évidemment extrêmement célèbres et habilement revisités, faut le reconnaître. Voilà, mais on les reconnaît quand même. Voilà. Donc cette partie-là était encadrée par deux monuments beaucoup plus connus de nous tous, évidemment. Le premier, c'était Wesendonklieder de Wagner également, un cycle de mélodies, de cinq mélodies qui sont écrits par Richard Wagner sur, et pour la première et unique fois dans le corpus de ce compositeur, écrit sur des textes que lui n'a pas écrits. Voilà.
de Mathilde
puisque
Wezendonck.
Puisque les textes voilà. dont ce Mathilde Wezendonck, la femme bien-aimée du plus grand, d'un des grands mécènes, pas du plus grand,
Wagner.
Pardon,
d'un des mécènes de Wagner,
Otto Wezendonck. Et je pense que la durée de composition de ces cinq mélodies a duré très longtemps et on se demande pourquoi ça a été aussi long. Enfin, on le sait tous, l'histoire l'a relevé maintes fois. Donc, Richard et Mathilde étaient amants et maîtresses.
Oui, ils n'avaient pas qu'une admiration littéraire pour elle, vous l'aurez compris.
Voilà.
Pour le dire élégamment.
Et donc, il est évidemment formidable d'entendre dans la musique de Richard Wagner des thèmes qui vont être ensuite des amorces de thèmes, de leitmotiv, puisqu'on parle de Wagner, qui seront développés par la suite dans Tristan et Isolde. C'est un peu comme si c'était des messages subliminaux cachés dans l'œuvre. Voilà.
Peut-être des esquisses. Il pensait déjà.
Oui, mais peut-être aussi en même temps. C'est quand même Tristan et Isolde est quand même un peu sentimentalement très chargé même. Voilà. Donc je pense que Richard Wagner laissait à l'avenir le soin de décrypter ces messages-là. Bon, l'interprétation, évidemment, c'est une interprétation tout en retenue, en profondeur, avec cette sorte de voix qui se déroule vraiment comme quelque chose de... Comme un monument, quoi, véritablement comme un monument. Et le timbre est sombre, il conjugue les couleurs automnales, les demi-teintes sont émises sur le souffle. Et voilà, tous les sentiments qui sont cachés par les deux amants s'entendent parfaitement. Voilà, la voix se fait musique. Et à la fin du dernier lied, un rêve, n'est-ce pas, qui s'achève quasiment sur la même tonalité que la mort d'Isolde, et retient à peine les sanglots dans notre gorge. Voilà. La deuxième partie est dédiée au Kinder Totenlieder de Gustav Mahler sur des textes de Rücker. Et là aussi, évidemment, ce n'était pas quelque chose de très amusant, puisque ces textes parlent de la mort d'enfants.
Ces chants sur la mort des enfants.
Voilà. Eh bien, nous retrouvons Nina Stem à nouveau dans toute sa splendeur. Et là, encore une fois, elle sait nous prendre à la gorge, nous émouvoir énormément avec des éclats de douleur, des demi-teintes somptueuses. Voilà, pour dire comment exprimer cette douleur impensable pour des parents que de perdre un enfant. Voilà. Et elle est formidablement accompagnée, et il faut le reconnaître. Mais enfin, elle avait décidé dans son programme de ne pas en rester là. Elle était parfaitement consciente de quand même de cette espèce de climax angoissant, anxiogène qu'elle mettait. Et donc, elle termine avec Bis compris, avec quatre chansons signées pour la musique de Kurt Weill, et dont le fameux Youkali, évidemment. Voilà. Et le dernier bis, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est My Ship, qui est extrait de Lady in the Dark, sur des textes, des lyriques de Ira Gershwin et musique Kurt Weill. Voilà, une grande soirée, une très très grande, un très grand récital qui, pour certains qui en ont le souvenir, ont dû nous ramener 70 ans avant pour le récital de Kirchenflagstadt au Théâtre du Capitole.
Voilà, encore une belle après-midi à l'Opéra National du Capitole. On ne va pas se priver d'écouter encore une fois Nina Stemme dans les Wezendonck-Lieder. Elle chante ici le cinquième et dernier lied, Traume, rêve, composé par Richard Wagner sur un poème de Mathilde Wezendonck. Deinem meinen Sinn umfasst. Traume, rêve, le cinquième et dernier des Wesendonck Lieder, composé par Richard Wagner sur un poème de Mathilde Wesendonck. Pour conclure cette première partie d'émission, une courte virgule musicale. On se retrouve avec Serge Chosy et Robert Pénavert pour la partie agenda de ce numéro. Elle va être courte. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie, toujours en compagnie de Serge Chosy et Robert Pénavert. Agenda bizarrement assez peu fourni cette semaine, mais il y a parfois des périodes de creux entre deux pics d'activité musicale. Tout de même, il faut noter le concert de l'Orchestre National du Capitole, samedi à 18h à la Halle aux Grains, un concert du cycle Zigel. Autrement dit, il s'agit de concerts que donne l'orchestre avec le célèbre pianiste et vulgarisateur. Il y a toujours un thème et celui-ci a été sous-titré « Monstrueusement votre ». C'est intitulé Intrigue, évidemment. De quoi s'agit-il, Serge ?
Ah ben, écoutez, il sera question d'ogres, de lutins, de farfadets, d'ondins, de gnomes, de démons, donc avec des œuvres...
De sorcières, de cyclopes, enfin...
Oui. Avec des œuvres signées de Manuel de Falla, Grieg, Liadov, Mendelssohn, Moussorgsky, Saint-Saëns, Stravinsky. On peut déjà deviner un peu de quelles œuvres il s'agira. L'amour sorcier, évidemment, et etc. Donc, l'orchestre sera dirigé par Lucie Le Guay, donc une chef. Donc,
une chef qui fait de plus en plus parler d'elle.
Oui, exactement. Donc, avec toujours... La verve de Jean-François Zigel que l'on connaît bien et là vraiment avec un sujet particulier quand même
Ah oui, c'est la grande parade des monstres.
Je pense que
c'est un petit clin d'œil au film de Todd Browning, Freaks en français, qui avait été appelé La Monstrueuse Parade. Bon là, ça, c'est une parade de monstres en musique, hein. Ne soyez pas effrayés. Alors pour illustrer ce monstrueux programme, nous allons écouter une des pièces que vont jouer les musiciens de l'Orchestre du Capitole sous la direction de Lucie Le Guay samedi. Voici La Danse Infernale du Roi Katchai, extrait de L'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky. La danse infernale du roi Katchai, la bien nommée extraite de L'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky, une version de l'Orchestre National du Capitole dirigée ici par Tougan Sokiev. Et c'est une des pièces au sommaire du concert monstrueusement vôtre que donne ce même Orchestre du Capitole samedi à 18h, la Halle au Grain. Elle est présentée, donc cette soirée est présentée par Jean-François Zivel sous la direction de Lucie Leguet. Avant de conclure cette émission, nous voulions vous signaler les deux concerts que donne l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Cette semaine, il y en a un vendredi 10 mars à la Halle de Limogne en Quercy. C'est dans Lot à 20h30. C'est le baroque français qui est à l'honneur puisque le programme met en vedette la musique de Marin Marais, mais pas seulement Serge Chaudy. Il y a des pièces d'autres compositeurs de cette période.
Et également Francesco Durante, Jean-Baptiste Lully, Antoine Forqueray et Georg-Philippe Telemann. Et en soliste, il y aura celle qui joue magnifiquement de la viole de gambe, Anne Gorier, donc fait partie de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Donc, un très beau programme, bien ciblé sur l'âge d'or de la musique française, donc à cette époque-là.
Et puis, il y a deux autres concerts le même jour, le dimanche 12 mars, c'est au Phare à Tournefeuille.
Oui, et là cette fois, l'orchestre de chambre sera associé à l'orchestre OUT Toulouse, qui n'est autre que l'ancien orchestre de l'Université de Toulouse, et le tout sera dirigé par Jean-Guy Olive, donc dans un programme d'Europe de l'Est, puisqu'il y aura des danses hongroises de Johannes Brahms et les danses slaves d'Antonin Dvorak. Donc vraiment, on change de monde, de siècle et de type de musique.
Et donc il y a deux chances pour écouter ce programme. Ah oui. Une à 14h et une à 17h le phare. 12 mars au phare de Tournefeuille, oui. Salle qui est vaste, qui peut accueillir beaucoup de spectateurs. On va écouter un peu Anne Gorier et sa viole de gambe avant de terminer cette émission. C'est dans un extrait des célèbres Folies d'Espagne de Marin Marais. Les Folies d'Espagne de Marin Marais sous l'archet et avec la viole de gambe d'Anne Gorier, accompagnée ici par le clavecin d'Eva Del Campo. Nous sommes arrivés au terme de ce 222e numéro de Mélomanie, il est temps de conclure. Merci infiniment à mes deux invités, Serge Chaudy et Robert Pénavert, d'avoir été encore au rendez-vous aujourd'hui pour m'assister dans l'animation de cette émission. Je rappelle donc que l'Orchestre de Chambre de Toulouse est en concert le vendredi 10 mars à 20h30 à la Halle de Limogne en Quercy. Il y accompagne la violiste Anne Gorier que nous venons d'entendre dans un programme largement dédié à Marin Marais et à la musique baroque française. La billetterie est accessible à l'adresse www.classicaor.festic.net. Et puis le dimanche 12 mars au Phare de Tournefeuille, ce même orchestre de chambre de Toulouse, associé à l'orchestre de l'Université de Toulouse, est placé sous la direction de Jean-Guy Olive, donne deux concerts à 14h et 17h. Ils vont jouer les danses hongroises de Brahms et les danses slaves de Dvorak. Pour réserver et acheter vos places en ligne, il faut vous connecter au site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Et enfin, pour le concert de l'Orchestre du Capitole avec Jean-François Zigel, ce samedi 11 mars à 18h à la Halle aux Grains. Les réservations et l'achat des places en ligne sont à faire sur le site www.onct.toulouse.fr. Un grand merci à Christophe Aubry qui a réalisé ce numéro dont le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous, chers auditeurs, de rester fidèles à cette émission. Très bonne semaine musicale à tous.